première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi.
Par où dire ?
Par où dire ?
Au musée des Beaux-Arts à Mons, jusqu'au 26 janvier, Memento Mons, cabinet de curiosité.
Nous nous plongeons dans les madrigaux, ces fameuses musiques qui étaient justement jouées à l'occasion des messes, qui avaient quelque chose d'extrêmement sacré. En se plongeant justement dans cette époque, on se rend compte à quel point la religion avait une importance particulière. La religion était le pouvoir, la religion était vraiment omnisciente, omnipotente. C'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de cette expo, qui est en rapport avec les cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité sont nés dans cette époque où la religion prenait une place particulière. Sauf que, justement, les collectionneurs qui disposaient tous ces artefacts, tous ces échantillons, tous ces objets exotiques venus des quatre coins du monde, d'hier et d'aujourd'hui, montraient deux choses. La première chose, qui est issue de cette fameuse catégorie des naturalia, montre justement, au travers de cette catégorie, toute une série d'objets qui ont été faits selon ce que l'on peut dire la main de Dieu, selon la nature, selon la religion. Et donc cette catégorie-là visait justement à donner une importance particulière à la religion et montrer que d'abord la religion était là, ensuite l'homme advenait. Et les cabinets de curiosité, en dehors de cette première catégorie qui était essentielle, fondamentale, première, présentaient des artefacts qui étaient issus d'une autre catégorie, grande catégorie, qu'on appelle artificialia. Et les artificialia étaient toutes ces pièces, tous ces objets qui étaient issus de la main humaine. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que, à cette époque où justement les humanistes commençaient à pointer leur nez d'une certaine façon, où on commençait à comprendre que la Terre n'était pas forcément plate, où on commençait à se poser les questions pour savoir si, tiens, finalement, est-ce que l'être humain n'est pas au centre, ces artificialia justifiaient la place de l'être humain aux côtés de Dieu. Et donc ça, c'est vraiment les prémices de l'humanisme, c'est vraiment les prémices du moment où l'homme a commencé à comprendre qu'il était au centre. Lui aussi, voire tout doucement, lui tout seul, d'une certaine façon.
Au musée des Beaux-Arts à Mons, jusqu'au 26 janvier, Memento Mons, cabinet de curiosité. Memento Mons, cabinet de curiosité. Avec Xavier Roland, Ornella Lavacara et Christophe Weiss.
Le monde change. C'est qu'au départ, les cabinets de curiosité se sont présentés sous la forme de studioles que les Montefeltre, les Médici, les Gonzague avaient mis en place dans leurs bureaux. À la base, c'était des sortes de bureaux extrêmement marketés, extrêmement luxueux, où ils faisaient montre finalement de toute leur connaissance, de la connaissance du monde, mais aussi de la leur, d'abord et avant tout. Parce qu'évidemment, c'était l'époque où on a eu toute une série de découvertes, mais il n'y a pas que la découverte du Nouveau Monde, il y a aussi des découvertes dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'industrie agraire, par exemple, qui ont amené toute une série de nouvelles connaissances, la découverte aussi des livres antiques, qui finalement ont remis un peu en question ces gens de la Renaissance, parce qu'on le sait tous très bien, au Moyen-Âge, c'était une période assez sombre où finalement on a un peu oublié le passé, on a essayé de faire fi de ce qui a été fait auparavant, considéré comme païen d'une certaine façon. Et puis à la Renaissance, on redécouvre ces livres par les fouilles archéologiques et on comprend qu'un monde a existé, c'était avant nous, et qu'il n'y a pas que la place à Dieu, qu'il y a aussi la place à l'homme, à ses inventions.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
C'était
une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique, tantum,
le monde invisible.
Memento mons. Un bon début. Par Thierry Génico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Les studiolos qui étaient en Italie, finalement, se sont propagés dans l'espace germanique parce qu'évidemment, à l'époque, on commence à communiquer de plus en plus entre les mondes aussi. Et donc, les studiolos dans l'espace germanique deviennent Wunderkammer. Et Wunderkammer, pourquoi ? Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est chambre des merveilles. Ce n'est pas qu'un studiolo, ce n'est pas qu'un bureau de connaissances, c'est une chambre des merveilles. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un pan des cabinets de curiosité, un thème qui est aussi extrêmement important. Ce n'est pas seulement de donner sa place à Dieu et de donner sa place à l'homme, mais aussi de donner sa place à la fois à la science et à la fois aux légendes, à tout ce qui est de l'ordre des merveilles. Et c'est ça qui est très intéressant dans les cabinets de curiosité, c'est qu'on voit que dès le moment où ça a apparu, au XVe siècle avec les studiolos, plutôt vers le XVIe, XVIIe siècle, dans l'espace germanique, hollandais, on a envie aussi de condenser en un petit cabinet, parce que finalement c'est devenu un cabinet, ce n'est pas devenu qu'une pièce, c'est devenu un meuble. On le dit d'ailleurs en anglais, ça s'appelle le Curio Cabinet. Et on appelle ça même parfois Curio, tout seul, pour désigner le cabinet de curiosité en tant que tel et le meuble en tant que tel. Parce que le meuble est extrêmement important aussi dans la découverte du cabinet de curiosité. Ce meuble où il y a plein de tiroirs à découvrir, plein de choses qui sont accessibles ou inaccessibles, et évoque quelque chose de très universel et qui rassemble vraiment en un lieu toutes les connaissances du monde, mais celles d'hier, celles d'aujourd'hui, celles de la science et celles des merveilles, celles de la religion et celles des hommes.
Au musée des Beaux-Arts à Mons, jusqu'au 26 janvier, Memento Mons, cabinet de curiosité. Avec Xavier Roland, Ornella Lavacara et Christophe Vez. Et la voix de Mehdi Georges Lalou. Ornella Lavacara, le titre de cette exposition à Mons, qui se tient jusqu'au 26 janvier, s'intitule
Memento Mons
et cabinet de
curiosité.
Le tout au pluriel.
Oui, parce qu'il y a différents cabinets de curiosité ici. Et Memento Mons, pourquoi ? On pourrait penser que c'est intriguant. Pourquoi Memento Mons ? Pourquoi une référence aussi forte au Memento Mori alors qu'on parle de cabinet de curiosité ? Eh bien parce que justement, dans le cabinet de curiosité, depuis sa naissance, il y a toujours une constante, un leitmotiv au cabinet de curiosité. Et ce leitmotiv, c'est le crâne. Et le crâne, c'est le memento mori. Ce fameux memento mori qui vient de la maxime de Tertullien, justement, qui expliquait, disons, selon la légende, que quand le général romain rentrait du triomphe dans la ville, un esclave se devait de se tenir derrière lui et de lui susurrer à l'oreille « Regarde derrière toi et souviens-toi que tu n'es qu'un homme ». Et en latin, c'est « respice poste, hominem te esse memento ». Et donc, cette phrase est vraiment restée dans la conscience collective. Pourquoi ? Parce qu'elle créait une sorte d'arrêt dans l'espace-temps. Elle permettait vraiment au général romain de se rendre compte que finalement, il n'était rien qu'un homme qui allait terminer en poussière, comme tout ce qui existe sur Terre. Et cette phrase a eu tellement du sens que finalement, petit à petit, elle s'est transformée en deux mots simples. Memento mori, pour souviens-toi que tu vas mourir. Et ce memento mori est toujours présent dans les cabinets de curiosité, qu'il s'agisse d'un crâne humain ou qu'il s'agisse d'un crâne animal. Parce que le cabinet de curiosité, en tant que concentrateur de toute cette connaissance du monde, montre aussi finalement qui nous sommes. Parce qu'en découvrant le monde, on se découvre nous-mêmes et on se rend compte de qui nous sommes. On se rend compte qu'on n'est pas si puissant que ça. Ou qu'en tout cas, cette puissance ne durera qu'un temps. Et donc c'est pour ça que Memento Mons entre en scène ici dans cette exposition, parce que les commissaires ont une volonté première de mettre en évidence, au travers de différents cabinets de curiosité qui sont dispatchés selon différentes salles, cette question du memento mori et poser la question « mais qui nous sommes ?» Et cette question leur a été inspirée, et ce, de la même façon que la forme des cabinets de curiosité qui prennent place dans chacune des salles, elle leur a été inspirée de la question actuelle des migrants.
Christophès.
Je m'arrête notamment sur cet emporte-pièce, qui est une sorte d'emporte-pièce, j'imagine, de briques, et qui appartient aux collections de l'asile, et qui est un objet qui est à la fois terriblement quotidien, absolument quotidien, qui servait d'étalonnage en quelque sorte, et qui ici, présenté de cette manière-là, de manière un peu somptueuse, présenté seul, ce qui pour moi est assez étonnant pour un cabinet de curiosité où traditionnellement on rassemble les choses. Ici on a une particularité, c'est que trois objets se superposent, donc on a déjà un peu plus cette notion. Donc c'est emporte-pièce, objet quotidien, qui est magnifié en fait. Et pour un musée qui se situe dans une région où le travail a à ce point du sens, le fait de pouvoir mettre un objet aussi utilitaire, aussi normatif, en majesté, aux côtés d'objets prestigieux, objets liés à un savoir-faire artistique notamment. Ça me touche particulièrement de voir que l'on peut être heureux de croiser un objet aux formes aussi minimales aussi, hein, par rapport à mes goûts. C'est quelque chose qui a un certain écho, d'arriver à vivre une telle simplicité, quelque chose qui a pu donner naissance à autant d'objets de notre quotidien et qui peut-être en se baladant dans la ville, on peut retrouver les fruits de l'usage de cet instrument.
Ornella Lavaccara.
Dans chacune des salles est exposé un cabinet de curiosité. D'où le mot cabinet de curiosité au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Et parce qu'il y a toujours plusieurs curiosités. Et chaque cabinet de curiosité qui prend place ici dans les salles porte la forme de cette tente de migrants. Et ce qu'on ne voit pas, mais qui pourtant est présent, comme cette question du memento mori dans le cabinet de curiosité qui est toujours présent, même malgré le crâne, c'est que certains modules prennent la forme de cercueils. Mais évidemment, comme ces modules sont monumentaux d'une certaine façon, on ne peut pas, en un regard, comprendre qu'il s'agit d'un cercueil. Et donc, de la même façon que le crâne ponctue les cabinets de curiosité, ici, le memento mori ponctue l'exposition Memento Mons. Les commissaires, eux, ils sont partis de la typologie première des cabinets de curiosité, les naturalia, dans lesquels se trouvent par exemple les animalia, mineralia, et ont créé leur typologie, la typologie contemporaine des cabinets de curiosité, qu'ils ont créé eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle sur chacun des modules, chaque cabinet de curiosité, se trouve un nom. Comme par exemple, ici nous sommes devant le module naturalia, à côté nous avons le module potentia, et donc chaque module représente finalement les questionnements actuels de notre société. À la manière du cabinet de curiosité d'époque, on reprend des œuvres d'hier et d'aujourd'hui, de là-bas et d'ici. Et donc du coup, il y a trois collections différentes, bien distinctes, qui sont représentées au sein même de l'exposition. La première, c'est celle des collections montoises. Ensuite, c'est une sélection d'artistes de Beecraft, qui est une association qui fait la promotion des artistes dans le domaine des arts appliqués contemporains, donc les métiers d'art, ce qui aujourd'hui a tendance à être oublié aussi, quelque chose qui devient rare, mais qui est en même temps extrêmement précieux. Et puis on a enfin cette troisième collection, qui selon moi est vraiment la cerise sur le gâteau, parce qu'elle est extrêmement pertinente vis-à-vis de l'exposition, c'est la collection Passion Obsession Collection de Galila Bartilai Hollander. Et donc, avec les collections montoises, les artistes de Beecraft, la collection POC, on a le design, on a les arts plastiques, on a l'artisanat d'art. Et de la même manière que les cabinets de curiosité, et selon la même façon de travailler que les commissaires, il n'y a plus aucune barrière entre les arts plastiques et les arts appliqués. Et tous, finalement, parlent la même langue, et cette langue est celle du memento mori. Par exemple, on est devant une pièce de Christophe Quintera. Christophe Quintera qui, en fait, est un artiste qui reprend toute une série de petites pièces électroniques qu'on a tendance à jeter, qui d'ailleurs constituent un problème du point de vue de l'écologie. Évidemment, c'est très polluant. Et lui, il reprend justement toutes ces petites pièces d'électricité pour créer une nouvelle sculpture. Posée comme ça sur la table, on a vraiment affaire à une nature morte contemporaine, merveilleuse, complètement inattendue parce qu'on n'a jamais eu l'habitude de voir ça. Et qui en même temps nous pose question sur la place de tous ces nouveaux artefacts technologiques dans notre monde. Et qui nous pose question, qui nous fait dire comment est-ce que nous pouvons arriver à survivre dans un monde aussi complexe, dans ce monde que nous avons nous-mêmes créé. Est-ce que nous allons nous-mêmes survivre dans ce monde que nous avons créé? Voilà.
La philosophie nouvelle rend tout incertain. Le soleil est perdu et la terre, et personne aujourd'hui ne peut dire où chercher celle-ci. Tout est en morceaux, toute cohérence disparue. Plus de rapport juste, rien ne s'accorde plus. John Donne.
On a en face de nous, dans une très grande vitrine qui prend à peu près l'espace des boîtiers, dans sa totalité, une somptueuse sculpture en bois qui semble être une sculpture anciennement polychrome. Il reste quelques petits accents comme ça en relief. Et vous avez un textile qui semble flotter, qui a une dimension presque baroque dans la manière dont les pans du textile retombent. Et lorsqu'on regarde le visage de la personne, qui aurait pu être une très belle femme par exemple, emportée par le vent, on se rend compte qu'il s'agit d'un crâne qui remplace le corps vivant. Donc la vie des mouvements de ces textiles, qu'on entend quasiment la sonorité, on entend les brocarts ou je ne sais quel textile se rencontrer, s'entrechoquer par le vent. Ici, la vie n'est que au travers de ces éléments, puisque la vie humaine a disparu. Et c'est à nouveau une pièce qui est dans les collections de la ville. Et paradoxalement, alors que je suis clairement contemporaniste, je trouve que parmi les plus belles des merveilles ici, ce sont les pièces les plus anciennes, qui m'emportent littéralement, parce que le sentiment de surprise, qui est un sentiment très important dans les cabinets de curiosité, ici est dominant. Évidemment, il se trouve que la collection de Galila Hollander est une collection que je connais peut-être déjà un peu plus, et donc mes surprises sont étonnamment dans l'art ancien, alors qu'on est en compagnie d'œuvres contemporaines qui sont aussi très marquantes, notamment par la manière dont Galila collectionne, et qui est héritée de la façon dont son époux collectionnait, qui avait une collection de cabinets de curiosité. Et le fait d'avoir cette rigueur thématique, comme dans les cabinets où on va avoir des pierres, on va avoir des sabliers ou d'autres instruments scientifiques, ici on a les livres, on a les yeux, on a les œufs, c'est un peu une sorte de renouveau du cabinet de curiosité qu'elle nous propose au travers d'objets fantastiques, merveilleux, intrigants. Direct aussi, un des accents particuliers de la collection de Galila. Elle aime les choses qui sont assez immédiates, qui peuvent nous toucher dans un rapport très intuitif. Les billets de banque, l'argent, les sièges sont aussi quelques-uns de ces éléments qui constituent le cœur battant de cette passion dévorante. Elle a pu dire régulièrement qu'elle vivait dans sa collection et pas l'inverse. Ce qui donne une belle image de ce qu'est l'esprit d'un collectionneur qui construit une collection, mais qui est aussi débordé par cette passion. Et ce qui est assez beau dans l'exposition, c'est de nouveau une sorte de contraste. C'est que c'est un cabinet de curiosité qui est à la fois rempli de surprises et d'une certaine sagesse, d'un calme. Je trouve que la musique participe très bien d'ailleurs de ce calme. La rythmique de la visite est très tendre grâce à la musique que l'on entend en fond sonore.
D'un compositeur montois, n'est-ce pas ?
D'un compositeur montois, de Lassus.
De Lassus, Roland de Lassus.
Voilà, exactement, de Lassus, dont les morceaux sont d'une splendeur incommensurable. C'est vraiment très très beau de rencontrer et d'avoir ce pont qui s'établit entre les arts visuels, les arts plus décoratifs et les objets du quotidien qui sont ici en rencontre avec cette espèce de spiritualité musicale d'une grande grâce.
Le module cercueil, qu'on ne voit pas tout de suite, c'est un module qui délibérément a été consacré à l'humanité. Il s'appelle Humanitas. Et on le ressent. On le ressent, et comme dans chacun des modules, justement, chaque pièce évoque un peu ce qui a été présenté par les commissaires au travers de leur module. Ici, on le ressent, on ressent l'humanité, mais on ressent aussi surtout la question du memento mori. On voit cet homme au moulon, qui date du Moyen-Âge, je pense. Et à côté, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une pièce en porcelaine où l'artiste dit justement qu'elle travaille avec le temps, qu'elle travaille avec la matière, qu'elle est en révolution contre cette course du temps qui passe, justement représentant toute une accumulation d'encolis ici, des fleurs qu'elle a cuites et qui finalement ont disparu et qui ont simplement laissé leurs traces. On passe de cet homme à moulon à cette forme longiligne, en fait, qui nous fait dire aussi, même sans connaître le travail de cet artiste céramiste, que le temps passe, en fait, et que nous terminons tous comme ça.
Xavier Roland.
On est à la transition du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est sans doute la période qui a été la plus prolifique pour représenter la mort. C'est la manière de caractériser, d'identifier, de matérialiser la mort a sans doute été à ce moment-là la plus présente. On est encore baigné dans cet esprit du Moyen-Âge. Et ici, on a cette sculpture en albâtre, donc c'est une pierre très compliquée, très dure à travailler, qui était intégrée dans un tombeau dans la collégiale Sainte-Vaudru, ici à Mons. La représentation d'une figure d'un squelette où la partie inférieure du crâne a disparu, mais on retrouve très clairement sa cage thoracique, drapée par une espèce de voile très souple et une main posée sur un chevalier en armure. Donc cette figure de la mort qui est un squelette qui pose la main sur le chevalier, on lui dit « ben voilà, ton temps est arrivé ». Et le chevalier fait quasi un pas de danse, très léger, qui est à la fois un pas qui va vers la mort avec sa jambe et l'autre jambe qui est un peu en jambe d'appui, qui résiste un peu.
Comme ici, par exemple, avec le chevalier et la mort, forcément, on le ressent. Et apparemment, existait une inscription qui allait avec cette pièce de marbre qui vient des collections montoises. Et cette inscription disait « Nemini parco », c'est-à-dire « Je n'épargne personne ».
Et il s'agit bien d'une danse macabre.
Et il s'agit bien d'une danse macabre, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en même temps que le cabinet des curiosités est sorti, qu'est-ce qui est sorti ? Les natures mortes, les vanités qui ont découlé des natures mortes. Cette danse macabre qui est vraiment arrivée à son apogée au Moyen-Âge, où la peste a justement révélé un peu le pouvoir de la mort et où les gens s'en faisaient des idées et essayaient d'atteindre une sorte de catharsis, en fait, pour essayer de contrer cette peur extrême face à la mort. Et donc les danses macabres étaient vraiment là pour essayer de démontrer la puissance de la mort, mais en même temps, finalement, essayer d'en rire aussi.
La philosophie moderne rend tout incertain. Tout est en morceaux, toute cohérence disparue. Plus de rapport juste, rien ne s'accorde plus. Extrait de Alexandre Coiré, Du monde clos à l'univers infini.
Ça, c'est une pièce qui me marque personnellement beaucoup, de Gil Shahar, un artiste israélien. Et il crée en fait des moulages sur base de modèles réels, modèles vivants, on va dire. Et donc du coup, ça pose la contrainte technique de devoir fermer les yeux. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces modèles qui finalement ont été moulés sont en cire. Et la cire, évidemment, on le sait tous, évoque d'une certaine façon la peau, nous donne l'impression d'avoir affaire à quelque chose de réel, en fait. Et ici, on est vraiment dans la négation, dans cette contradiction dont on parlait tout à l'heure, qui est liée au cabinet de curiosité, au memento mori et à nous-mêmes. On a un buste, une personne, qui est face à nous et qui en même temps ferme les yeux. Elle est à la fois ouverte à ce qu'on s'intéresse à elle, mais en même temps fait plus que détourner le regard, elle ferme complètement les yeux, laissant place finalement à cette idée de méditation, de réflexion personnelle et privée qui est vraiment omniprésente ici.
La lumière pénètre la matière et on a le sentiment que c'est de l'intérieur qu'elle rayonne. Et donc, d'où ce côté très fantomatique qu'elle donne est très léger dans cette atmosphère.
Oui, car les commissaires sont les scénographes. Ils ont en main le fond et la forme.
Exactement, les commissaires sont les scénographes, ce qui est un plus parfois, effectivement, de pouvoir avoir l'ensemble des leviers. Et j'ai l'impression qu'il y a une volonté très forte de leur part de tenir un propos. Le fait d'avoir un cabinet de curiosité où chaque objet est magnifié isolément me semble a priori quelque chose qui est antinomique. Mais ici, dans la scénographie, cela prend sens.
Chaque pièce a sa vitrine. Chaque pièce a son conditionnement, son éclairage. Et donc, on est dans une proposition qui n'est pas une proposition d'accumulation, mais une proposition d'articulation. Il y a une pièce, ensuite une autre niche présente une autre pièce dans un autre caractère, dans un autre style, où on accorde le même temps. Et puis il y a le pas du recul qui fait qu'on commence à articuler, à comparer deux pièces dans des niches qui sont proches l'une de l'autre. Et puis après, il y a l'ensemble de la niche qui permet au spectateur de chaque fois, en fin de compte, poser des questions.
Ici, on a une expérience olfactive, on a une expérience sonore, on a une expérience qui est complexe, et je pense que c'est la force de cette exposition, c'est d'avoir osé le complexe. Le cabinet est quelque chose de compliqué, volontairement compliqué, puisque c'est issu normalement de la pensée d'une personne où les croisements sont permanents, et le croisement est quelque chose qui génère la complexité, et qu'on a peut-être trop tendance à vouloir des expos extrêmement lisses pour que tout le monde puisse les comprendre immédiatement. Mais la richesse ici, et c'est un bonheur d'avoir des époques différentes, des formes différentes, des provenances différentes, et qui forment un tout, et un tout qui prend grâce à la qualité d'un sujet, à la qualité des pièces exposées et probablement, très probablement, en ces commissaires et scénographes.
Le cabinet curiosité, donc dans le cabinet curiosité, il y a curiosité. Aujourd'hui, le public a oublié d'être curieux, a perdu cette curiosité.
On donne la sensation qu'il y a des zones troubles, la passion pour les sirènes, les licornes, le fait que certains collectionneurs mettaient des fortunes dans des défenses de narval, imaginant, oui ou non, qu'il s'agissait de cornes de licorne, est un bon exemple. Et en effet, ce sont des collectionneurs, et ici, ce sont des collections qui sont issues à la fois d'entités, d'institutions, qui sont le fruit du passage du temps aussi, de l'amoncellement, du goût, de l'histoire d'une ville, mais aussi d'une collectionneuse, c'est-à-dire un choix qui lui est subjectif, qui est volontaire, engagé, bien que les institutions le soient tout autant, mais ici c'est très intuitif. La collection de Galila est marquée au sceau du contemporain. C'est quelqu'un qui est extrêmement active, qui est aventureuse, et c'était comme ça que se sont constitués la plupart des très beaux cabinets au 16e par exemple, où on a effectivement une gourmandise. On parlait du bonheur. Un collectionneur, Stephen Zweig, dit que c'est un homme heureux. Ici, c'est une femme qui a trouvé le bonheur dans l'aujourd'hui.
Le cabinet curiosité, donc dans le cabinet curiosité, il y a curiosité. Aujourd'hui, le public a oublié d'être curieux, a perdu cette curiosité. on donne trop aux visiteurs et aux gens ce qu'ils attendent. On s'inscrit beaucoup trop souvent dans ce qu'on appelle les mainstream culturels, mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi se mettre dans une position qui est difficile pour un musée, et pour un musée qui est un musée communal avec des enjeux, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir cette position de ne pas donner aux visiteurs quelque chose directement mâché et compréhensible de façon directe. Il faut réactiver cette zone d'inconfort et de curiosité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cartel. Il y a d'abord le contact privilégié qu'on a avec la pièce. Mais évidemment, c'est important aussi de permettre aux visiteurs de comprendre l'histoire de la pièce. Et donc chaque pièce a un numéro associé à une légende qui explique l'œuvre dans son cas particulier. Mais l'important, je dirais, c'est qu'il y ait ces différents temps de rencontres et de découvertes.
J'ai tendance, moi, personnellement, à dire même plus que le cabinet de curiosité, la présence de la mort qui d'office est là. Puisque quand le vivant est présent, la mort l'est tout autant. Et le memento mori, c'est vraiment le encore là de ce qui n'est plus là. Ça crée vraiment un arrêt dans l'espace-temps. Ça nous renvoie à nous-mêmes aussi. Un miroir, en fait, de ce que nous sommes, de ce que nous avons créé, de ce qui a été créé avant nous. C'est une remise en question, mais une remise en question qui n'est pas violente. C'est vraiment une remise en question qui est méditative. Quand on est devant un cabinet de curiosité, on découvre. On découvre ce qui est curieux. On a l'impression que certaines choses sont laides. Et en fait, elles sont merveilleuses. Et merveilleusement belles. On comprend, après la découverte d'un cabinet de curiosité, que finalement, la beauté n'est pas là où on le pense. Et que finalement, ce qui est laid peut être aussi beau.
Xavier Roland.
D'un point de vue historique, c'est toujours la collégiale. Vous savez, la collégiale, c'est un trésor d'œuvres. Bon, on sait que le jubé qui a été réalisé par Jacques Dubruc est une pièce qui a été démantelée à la Révolution française, mais heureusement, on a conservé toutes les pièces qui ont été repositionnées dans la collégiale. Cette collégiale qui était dirigée par des chanoines, des femmes donc, religieuses, qui avaient un don à l'époque, on est là au XVIe siècle, cette pièce-là, elle date de la fin XVIIe, début XVIIIe, donc dans la période baroque, avait ce don d'aller chercher des maîtres dans le domaine de la création à l'époque. Dubruc, c'était un grand maître.
D'ailleurs, le mot curiosité n'est pas digne de ce que le cabinet de curiosité est réellement. C'est un cabinet de découverte, un cabinet de mémoire, un cabinet de réflexion. C'est plus qu'un cabinet de curiosité, c'est finalement la condensation de la vie, en fait. Qu'on découvre tiroir par tiroir, pièce par pièce, et qui nous amène finalement au dernier niveau de réflexion, à savoir finalement quelle est notre place aussi ici. Qu'est-ce que je fais de ce que je vois en face de moi ? Qu'est-ce que je peux apporter pour que ça reste, pour que ça perdure, et pour que les générations futures puissent aussi, comme tout comme moi, se poser la question de savoir comment perdurer l'être humain, comment faire perdurer la nature, qui est extrêmement essentielle évidemment.
Et ici, on est devant une pièce absolument emblématique. C'était l'horloge de la mort. On est dans le thème, mais il n'y a rien à faire. Je veux dire, le cabinet curiosité questionne cette question de temps qui passe, etc. On est bien dans ce thème-là. Et on a cette figure-là, qui est ce bois sculpté, qui avait sans doute une polychromie à un moment donné. Le côté baroque, on le retrouve directement par ce drapé majestueux. On parlait tout à l'heure de la sculpture en albâtre d'un artiste anonyme avec cette figure de squelette qui était également drapée. On retrouve également ici, là on est sur une figure quasi grandeur nature. Cette sculpture, elle fait 1m60, 1m70. Le temps est passé et elle était positionnée en haut de l'orgue. Et on connaît la symbolique que l'orgue peut avoir. Donc cette horloge était au-dessus de l'orgue. Et il y avait cette figure-là de la mort et de l'autre, la figure du temps, évidemment. Et l'horloge au milieu.
Mais il faut dire une chose aussi qui est très intéressante, c'est que le cabinet de curiosité n'était pas toujours ouvert à celui qui le découvrait. Le cabinet de curiosité, au départ, prenait place dans les locaux d'une personne puissante qui parfois accueillait d'autres personnes, dans le cadre d'affaires commerciales par exemple. Et cette personne laissait toujours la place, le temps, à celui qu'elle accueillait, de découvrir le cabinet de curiosité. Mais certaines choses, certains tiroirs étaient parfois fermés. C'était une manière pour celui qui accueillait de comprendre un peu quelle était la personnalité de celui qu'elle allait rencontrer. Quel tiroir il allait ouvrir, quel tiroir il allait essayer d'ouvrir alors qu'ils étaient fermés. C'était quelque chose d'extrêmement codifié, de fermé, mais en même temps qui permettait justement d'ouvrir la réflexion sur la personne qui était en face de nous, d'une certaine façon.
L'orgue à la collégiale Sainte-Vaudru a été totalement restauré. L'horloge a été réinstallée au-dessus de l'orgue. La sculpture du temps n'a pas survécu au temps. Et hélas, a disparu. A été conservée presque miraculeusement la mort. Et là, elle est présentée ici. C'est une redécouverte complète.
On se rendra bien vite compte que les livres proviennent des collections montoises et surtout, surtout, de la collection de Galila, la collection POC. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que le livre, c'est vraiment l'instrument de la connaissance. Et en même temps, c'est quelque chose de complètement presque subjectif, en fait. Hein. Certains artistes dans l'exposition, comme par exemple Wimbota, disent « Mais finalement, la Bible, ce n'est qu'un livre qui a été écrit par quelques personnes qui ont vraiment propager, parfois avec violence même, une idée. Mais au fond, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment ça a de l'importance? Et en même temps, à l'inverse, le livre a une place extrêmement importante dans cette idée de connaissance, parce qu'il permet de pérenniser la connaissance. Et dans les cabinets de curiosité, ça prenait une place extrêmement importante. Et ici, aussi, on a à la fois la carte de la géographie de Ptolémée. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? On a une œuvre de la collection de Galila qui est en fait une chaise remplie de livres. Et on se pose la question et on se dit, mais est-ce qu'on s'assied sur la connaissance? Ou est-ce qu'on s'enrobe de cette connaissance?
Memento Mons, cabinet de curiosité, avec Xavier Roland, Ornella Lavacara et Christophe Weiss.
C'est l'échelle du temps, impraticable. Ou en tout cas, pas praticable physiquement, mais par l'esprit. C'est une artiste de Bicraft qui l'a créée, Anne-Marie Loreys, pour ne pas citer son nom, et qui a été créée pour l'occasion, par rapport au cabinet de curiosité. Et elle prend la forme d'une échelle. Mais une échelle qui est extrêmement frustrante. Ben parce qu'on ne sait pas, en fait, l'utiliser. Et cette échelle, elle est faite de 16 pots, d'une certaine façon, qu'elle tourne autour de potiers, et qu'elle finit par déformer, avec ses propres mains, évidemment, pour créer une expression qu'elle appelle aussi parfois grotesque. Une expression baroque, vraiment très forte, en fait. Et l'émail qu'elle pose dessus, qui est un émail sablé, donne, selon ses pièces, tantôt une impression de sable, justement, de minéral, tantôt, comme ici, une impression de chair. Une impression de chair, pourquoi? Ben, par cette couleur chair, terre, bleutée, comme celle des veines, qui montre, justement, la trace des mains de l'artiste. On ne sait pas si cette échelle mène au paradis ou à l'enfer, en fait. Mais on sait qu'elle mène quelque part. Cette échelle est vraiment tourmentée, tourmentée au niveau des formes, mais au niveau de l'expression qu'elle dégage. Moi, personnellement, justement, elle m'évoque tout ça, parce qu'on sent vraiment la force des mains qui viennent pétrifier la matière, qui en même temps ici est solide. On a l'impression que ça a été fait après cuisson, pas avant. Et les artistes de Bicraft ont tous leur place ici, en évoquant consciemment ou inconsciemment, quelque chose par rapport à ces cabinets de curiosité. Tout à l'heure, on parlait de l'homme à moulon qui redevenait poussière, qui redevenait nature, on va dire, au travers du travail d'une autre artiste de Bicrave, Thérèse Lebrun. Il y a cette idée du temps qui passe. Et puis il y a l'idée que véhicule Antonino Spoto de la beauté pure et dure. Parce qu'il s'agit de ça aussi. Les commissaires ont voulu mettre en exergue, d'abord et avant tout, la beauté. Mais quelle beauté ? Une nouvelle beauté. Une nouvelle manière de concevoir la beauté. Et ici, Antonino Spoto il montre quelque chose d'extrêmement parfait. Et quand on regarde l'exposition, la perfection, finalement, nous semble très dérangeante. Parce que dans les cabinets de curiosité, rien n'est parfait, en fait.
Qu'éprouvez-vous dans ce cabinet-ci ?
Silence. De l'émotion. La question revient dans cette expo, de savoir qui on est. Et je le dis, je le répète, je parle du Memento Mori depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ça au fond, en fait. C'est une expo qui nous ramène à nous-mêmes. On se pose des questions, mais surtout, on médite avec nous-mêmes, en fait. On est presque en paix. Et j'aime beaucoup cette salle-ci, la salle qui est consacrée à Roland de Lassus, qui a justement créé ce madrigal, cette musique.
Et qui est Montois.
Et qui est Montois, bien entendu. Et à la manière d'un chef d'orchestre, justement, essaye de faire jouer tout ce monde. Et c'est une pièce qui me parle énormément, de par la musique, évidemment, parce que c'est une musique qui est très spirituelle. On comprend à l'époque vraiment le pouvoir de la religion et ce que ça pouvait faire, justement, sur les gens qui entraient à l'église. C'est une musique qui intériorise, en fait, qui nous ramène à nous, en fait. Une dame m'avait fait une réflexion quand elle était passée dans cette salle. Elle m'avait dit, mais finalement, c'est ici qu'on comprend vraiment et qu'on ressent vraiment la mort. Parce qu'on se rend compte que finalement, tous les personnages, tous les bustes qui sont exposés dans cette salle, aucun ne regarde celui du milieu. Et seul celui du milieu est mort. Et elle me dit, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est indifférent à notre mort ? Est-ce que ça veut dire que le monde, le temps lui-même est indifférent à notre mort ? Et elle m'a dit, c'est là que j'ai compris, vraiment, que j'allais mourir. Ça, c'est fort. D'autant plus qu'on termine par le point vers lequel on a commencé l'exposition. Cette salle merveilleuse, où la table prend la forme elle aussi d'un cercueil, où à la fin de cette table trône une horloge qui nous montre que nous avons vieilli d'une heure, mais que nous avons vieilli quand même.
De Mehdi Georges Lalou.
Et ici, les bulles ne sont pas les mêmes à l'endroit et à l'envers. Elles sont toutes différentes, soufflées aléatoirement, ce qui permet que le temps à l'endroit des sabliers et le temps à l'envers des sabliers, quand il est retourné, n'est pas le même. Et justement, l'alibi de la matière, ce moule couscous, matière qui est cuite, c'est un aliment cuit, qui contient de l'humidité. Et cette humidité et cette forme non ronde va permettre que le temps, à chaque coulée, soit aussi différent. Donc en fait, ici, on a un temps qui est présent, mais qui n'existe pas. Et ça, c'est important aussi.
On aurait presque envie que le paradis existe. C'est ça, hein? Si seulement ça existait. Est-ce que ça existe? On ne sait pas. Faudra mourir pour le voir.
Christophe Weiss, nous avons quitté le musée des Beaux-Arts pour arriver dans l'école où vous enseignez.
Exactement. J'enseigne à Art au Carré, à Mons, qui est la fusion entre une école supérieure des arts, anciennement ESAPV, et le Conservatoire Royal de Mons. C'est-à-dire que notre école dispense trois types d'enseignement, art visuel, musique et théâtre. Et au sein de l'école a été inauguré le 20 septembre un espace d'exposition qui a pour vocation non pas de montrer spécifiquement les travaux de nos étudiants, mais plutôt de faire venir le monde à nos étudiants. Et donc, en l'occurrence, une expo inaugurale qui s'intitule « Un bon début », avec une sorte de pirouette, puisqu'on lance un espace. On est dans une école, qui est un lieu où on a le désir de poser un bon début pour que nos étudiants puissent rebondir joyeusement ou avec intensité dans le monde des pratiques artistiques, et sont réunis au sein de cette exposition 12 artistes qui viennent des quatre coins du monde, certains artistes belges, des artistes européens, mais aussi des artistes sud-américains ou asiatiques.
À Mons, Art au Carré, un bon début, avec Christophe Weiss.
Le lieu d'exposition est ouvert au public. Il est ouvert du jeudi au samedi, les après-midi. Et ce qui veut d'office dire qu'il s'adresse aussi à un public extérieur. L'ouverture est vraiment résolument un désir plein et entier des écoles. Un des objectifs des masters comme ceux que l'on dispense, c'est évidemment que nos étudiants rencontrent le monde et que le monde rencontre nos étudiants.
Alors, qu'est-ce qui unit ces artistes qui viennent de partout, outre le début? Mais le début, c'est un thème tellement abstrait.
C'est très abstrait. L'idée, c'était, par exemple, si on prend l'œuvre de Pep Vidal, c'est de montrer qu'à l'origine de quelque chose, il n'y a rien, et puis tout à coup, il faut une énergie pour que cette énergie donne ce que lui appelle un système. Donc quelque chose qui apparaît, et lui, il le traduit par des milliers de petites flèches. Dans l'exposition, on a aussi, par exemple, le travail d'une artiste française formée à la Cambre et vivant en Belgique, qui est Sandra Przyzinski. Et Sandra Przyzinski propose un travail sur les amorces des boîtes d'allumettes. Et on a ici alors quelque chose qui parle de nouveau de cette énergie qui va surgir. Par ailleurs, d'autres artistes travaillent sur l'origine du savoir. C'est notamment le cas de Yuki Okumura, qui a fait une œuvre, qui est un workshop. Quelques-uns de nos étudiants ont été dans une école maternelle, expliquer un peu aux enfants de cette école maternelle ce qu'était la différence entre intérieur et extérieur. Et ensuite, on les a silhouettés sur des grandes feuilles de papier, et les enfants ont dû imaginer ce qu'ils avaient à l'intérieur de leur corps. Ce qui est extraordinaire comme découverte, parce que les enfants faisaient en sorte d'imaginer quelque chose dont ils n'avaient aucune conscience. C'est-à-dire qu'ils mettent des pommes, des choses, parce qu'ils savent qu'ils les ingurgitent, mais à aucun moment il n'y a du sang, il y a des muscles, il y a des os, il n'y a rien. C'est assez somptueux de voir le décalage entre le réel et le désir artistique, parce que tout ça est fait au crayon de couleur, au pastel. Donc ça, c'est un apprentissage. Et un autre artiste qui traite de l'apprentissage, c'est Marc Buchy. Marc Buchy qui a une exposition en ce moment au BPS 22, par ailleurs. Marc a récupéré les premières tentatives d'un enfant là d'école primaire à essayer d'utiliser un compas. Donc il s'est mis en contact avec une enseignante qui a conservé toutes les étapes de ce mouvement, et on sent la maladresse, on sent petit à petit la prise de confiance, voire le bonheur. On a tous expérimenté ce geste particulier qu'est d'utiliser le compas. On a aussi des artistes qui jouent sur le presque rien, le fait qu'aujourd'hui en art on peut s'arrêter au début. Par exemple, Marcangeli et la splendeur de ses monochromes, beaucoup de gens pourraient les lire comme des fonds dont il manque une image à venir. pour rester sur la question du monochrome, on a aussi Marianne Mispeler, qui est présente actuellement, elle, dans une expo à l'ISELPE, et qui est une artiste française. Et en fait, le principe de cette pièce-là, c'est de créer un rectangle et de venir gommer dans ce rectangle, faisant en sorte qu'apparaisse tout à coup, parce que la gomme que l'on utilise est une gomme bleue, apparaisse une sorte de fenêtre, et les pellicules de gomme sont posées au sol, comme si l'image était tombée. Et le début, c'est aussi, pour moi, en tant que commissaire de cette expo, c'était aussi de faire comprendre aux étudiants que n'importe quel sujet pouvait être propice à un bon début. Et c'est notamment le cas dans le travail de Yvan Derouet-Duet, qui a travaillé sur des papiers toilettes. Papier toilette pourvu d'un petit chien. Et en fait, il a collectionné les papiers toilettes avec des défauts. Dans notre société d'aujourd'hui, où il y a même un contrôleur qualité pour les papiers toilettes, normalement, il ne devrait pas laisser passer des papiers toilettes avec défauts, et notamment souillures, puisque c'est quand même important qu'un papier toilette soit propre, en somme. Et Yvan a décidé de repeindre ces papiers toilettes avec les erreurs contenues dans ces papiers. C'est quelques exemples pour vous montrer la diversité de ce qui est pour moi le début. Et c'est à la fois une expo qui se vit pour des visiteurs extérieurs à une école, mais aussi avec un enjeu pédagogique au sein du dispositif.
On aurait presque envie que le paradis existe. C'est ça, hein? Si seulement ça existait. Est-ce que ça existe? On ne sait pas. Faudra mourir pour le voir.
Memento mons. Un bon début. Partir Eugenico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.